Est-ce que tout se joue à la première impression? On a tous déjà entendu la phrase « on n'a pas une deuxième chance pour faire une première bonne impression », mais est-ce que c'est vrai? On en parle cette semaine avec Cindy Rivard, stratège, conseillère et formatrice chez Oyer Communication pour la deuxième chronique « On a de la suite dans les idées », une chronique sur la communication et son impact sur nos réussites, qu'elles soient professionnelles ou sociales. Bonjour Cindy.
Bonjour Caroline.
Alors dis-nous, est-ce que tout se joue vraiment là, à la première impression?
Eh bien, Caroline, la première impression, elle est immensément importante, mais je suis pas prête à dire que tout se joue à la première impression. Par contre, rattraper une première impression manquée, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Aussi, je crois qu'il faut pas négliger la dernière impression qu'on laisse.
C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment à cette dernière impression, mais avant qu'on en parle, peux-tu me dire pourquoi c'est si important la première impression?
Bien, au milieu des années 40, il y a le psychologue Solomon H., j'espère que je prononce bien son nom. Lui, il a mis en évidence qu'on avait tendance à accorder plus d'importance à l'information qu'on reçoit ou qu'on perçoit en premier. Et puis ça, plus qu'à toute autre information qu'on reçoit dans un second temps. Cette première impression-là influence notre perception des nouvelles informations qu'on reçoit ensuite. Donc, si les premières secondes laissent une belle impression, bien, ça crée un contexte favorable pour la suite. Mais le contraire est aussi vrai. C'est pourquoi c'est difficile de se défaire d'une première mauvaise impression. Donc, depuis les années 40, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, puis elles ont toutes confirmé qu'on a tendance à utiliser des raccourcis mentaux et qu'on juge une personne, une entreprise, une idée ou un produit sur les premières impressions qu'ils nous laissent.
C'est vrai qu'on parle souvent de première impression concernant une personne, mais tu viens de parler d'entreprise, d'idées ou de produits. Est-ce que tu as un exemple concret là, à ce sujet?
Ben oui. Prends par exemple la tendance concernant le home staging ou la mise en valeur d'une propriété,
oui,
si tu préfères. Toute cette tendance-là est directement reliée à la première impression qu'on a en entrant dans une maison qu'on visite en vue de l'acheter.
Oui, là, la fameuse odeur de tarte aux pommes là, ou de pain maison là, qu'on laisse flotter dans la maison, ça a un impact donc?
Oui, c'est ça, ça a un impact. C'est un des aspects du home staging, puis ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant le marketing olfactif. C'est une bonne odeur, cette bonne odeur-là, c'est la première impression avec laquelle on est en contact en entrant dans la maison, puis ça a une influence sur le reste de la visite. Ça nous rappelle des bons souvenirs, c'est chaleureux, ça nous met dans un état de réceptivité qui est très positif pour le reste de la visite. C'est aussi pour ça que du côté des entreprises, on insiste toujours sur l'importance de l'image. C'est quoi la première chose que quelqu'un voit d'une entreprise?
Je penserais peut-être à son logo.
Oui, son logo. C'est lui qui représente l'entreprise, puis il doit être fidèle à la qualité du service qu'une entreprise prétend offrir. C'est pourquoi les sites web aussi ont aussi tant d'importance aujourd'hui. C'est souvent la première porte d'entrée de nos futurs clients. On y voit le logo de l'entreprise, puis son offre, puis on a juste 3 secondes. En 3 secondes, le client se fait une idée de la capacité ou non de l'entreprise à répondre à son besoin. Le phénomène de la première impression, il est partout.
C'est vraiment très court, là. 3 secondes. Et là, en tant que personne, comment est-ce qu'on peut s'assurer de faire une bonne impression?
Bien, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer en notre faveur ou notre défaveur. Ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, il y a des choses qui sont vraies tout le temps, comme le sourire, un regard assuré, une poignée de main ferme, la façon de s'habiller.
Mais est-ce que ça revient à dire qu'on ne peut pas rester nous-mêmes?
Non, au contraire. L'authenticité est importante. Mais par contre, il faut être conscient que cette première impression-là, si on veut mettre toutes les chances de notre côté, bien, il faut la considérer. Quand on sait qu'on a une situation particulière à vivre, comme une entrevue d'embauche, par exemple, une première rencontre avec un client ou un 5 à 7, bien, c'est important de se mettre en valeur. Si on manque de confiance, moi, je suggère de faire semblant puis de simuler cette confiance-là. J'appelle pas ça un manque d'authenticité. C'est simplement que de cette façon-là, on peut s'habituer à ces situations. On doit pratiquer.
Oui, mais c'est pas facile.
Non, c'est pas facile, mais regarder les gens dans les yeux et sourire, c'est naturellement plus gagnant que de se regarder les pieds parce qu'on est gêné. Soigner sa tenue aussi, ça veut pas dire de porter un costume cravate ou un tailleur. Ça veut simplement dire de s'adapter aux personnes qu'on va rencontrer. Si, par exemple, le jeans et le t-shirt sont de mise, ben de mon côté, je pourrais porter, par exemple, un jeans avec un veston pour être comme une coche au-dessus de ceux que je rencontre sans pour autant mettre une distance entre nous parce que là, on serait trop différent.
Et là, qu'est-ce qu'on fait si on rate sa première impression?
Bien, parfois, ça ne pardonne pas. Je dirais qu'à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de jeter un regard critique sur soi-même pour apprendre et ne pas reproduire ces erreurs-là. Les premières impressions sont incroyablement puissantes, puis parfois sont très difficiles à changer. Mais ce n'est pas totalement sans espoir. Si on a une deuxième chance, c'est simplement qu'on devra mettre les bouchées doubles pour convaincre l'autre, parce qu'il part avec une impression défavorable, puis ça va teinter son jugement longtemps. Toutes les petites gaffes qu'on va faire après ça vont alors être amplifiées dans son esprit parce qu'elles viennent confirmer sa première impression. C'est pour ça qu'on recommande de répondre à un commentaire négatif qu'on peut recevoir sur les différents réseaux sociaux ou les plateformes d'avis sur le web. Si on répond rien, on laisse le client sur sa mauvaise impression, puis on laisse tous les autres qui vont lire ce commentaire-là avec une première mauvaise impression.
Alors, juste ce sujet-là, là, ça pourrait faire l'objet d'une chronique.
Oui, puis j'ai bien l'intention d'aborder le sujet plus en détail prochainement, parce qu'évidemment, on ne veut surtout pas non plus démarrer un débat en répondant à une critique sur le web.
Oui, c'est un des aspects, je pense, des réseaux sociaux et du web qui fait peur à bien des gens. Comme tu le dis, on va y revenir dans une autre chronique. Et là, si on revient à cette dernière impression.
Bien, ça fait moins longtemps que des études ont été faites sur le sujet, puis l'impact est différent sur les gens. La première impression, elle, va influencer la perception de la qualité du service, alors que la dernière impression va influencer davantage la satisfaction du client. Donc, si on met tous nos efforts pour faire une première bonne impression, mais qu'après on se laisse aller et que notre interlocuteur ne part pas avec une dernière impression favorable, bien, ça va teinter son souvenir et sa satisfaction globale.
Et est-ce que tu as des exemples concrets de comment laisser une dernière impression favorable?
Dans une entrevue d'embauche, c'est les questions qu'on va poser à la fin qui vont faire office de dernière impression. C'est pourquoi on recommande toujours de bien se préparer puis d'avoir des questions pertinentes à poser, des questions qui vont contribuer à mettre en valeur notre intérêt pour le poste.
Là, on revient un petit peu à notre première chronique.
Exactement, oui. Un autre exemple, terminer un rendez-vous trop rapidement avec un client parce que notre téléphone sonne ou parce qu'on a mal évalué notre temps puis qu'on a un autre rendez-vous qui nous attend peut laisser une mauvaise dernière impression. Un autre exemple, terminer une conversation avec « je te l'avais dit, je savais que j'avais raison ». Oui, ça arrive ça. Ou encore avec une trop grande satisfaction personnelle quand on a réussi une négociation, ben ça peut laisser à l'autre l'idée qui vient de se faire avoir.
Ah, donc, même si ça s'est bien passé, disons, l'entrevue ou peu importe, mais si l'autre a l'impression qu'on est arrogant, ça termine mal.
Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça laisse un mauvais souvenir. Ce qu'on peut faire à la place, bien, féliciter l'autre personne pour la décision qu'il a prise, lui garantir qu'il ne regrettera pas sa décision, c'est des façons beaucoup plus efficaces de garder sa confiance. On peut aussi remercier l'équipe d'avoir accepté nos idées quand on partage des idées. On peut revenir sur les aspects auxquels on n'avait pas pensé, puis qui sont venus bonifier nos idées. Ça démontre vraiment notre capacité à vouloir travailler en équipe, puis ça laisse un souvenir beaucoup plus agréable.
Donc, ce n'est pas si compliqué là, de laisser une bonne dernière impression.
Non, ce n'est pas si compliqué, mais souvent, c'est un aspect qui est négligé, auquel on ne pense pas. C'est pourquoi que quand on réfléchit à une stratégie de communication chez Oyer Communication, on fait le tour de la question. Une stratégie de communication, ce n'est pas juste pour attirer un client chez nous, mais c'est aussi ce qu'on fait avec le client une fois qu'il est chez nous et une fois qu'il est parti. Puisque les études démontrent que les intentions d'achat des clients sont largement influencées par la dernière recommandation entendue, bien, la dernière impression a aussi toute son importance.
Et si les gens veulent plus d'informations, où peuvent-ils trouver ces études dont tu as parlé?
Bien, je vais publier les références sur mon site web, oyercommunication.com, puis on peut aussi s'abonner à mon infolettre pour être sûr de ne pas manquer l'information.
Merci. Et quel sera le sujet de notre prochaine chronique?
Eh bien, puisqu'on a titillé l'intérêt des gens pour en savoir plus sur comment répondre à des commentaires négatifs, je pense que la suite logique, c'est d'aborder le sujet.
Alors, on a de la suite dans les idées. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Cindy Rivard, stratège, conseillère et formatrice chez Oyer Communication.
Merci, Caroline.